On est aujourd'hui le mercredi 4 juillet. On est le 14 Tammuz et le cours d'aujourd'hui est pour la réfoua et la réussite dans tous les domaines de Rachel Bat Esther. En tous les cas, on continue notre cours. Aujourd'hui, on va lire un petit passage. On se rappelle dans l'histoire finalement le début du passage de pouvoir total et définitif de toute la royauté vers David, comme on l'a expliqué hier, le retournement de Avner, qui pour une histoire de femme, comme on l'a vu et tout ce qu'on a expliqué hier, finalement abandonne la maison de Shaoul, abandonne Mephibosheth et décide de ramener tout Israël, donc les 11 tribus d'Israël qui n'étaient pas encore avec David, de les ramener vers David. Il prend contact avec David et on avait vu que David lui avait dit « il n'y a pas de problème, tu peux revenir ». Mais juste avant, il y a un passage très important que nous devons lire. Et le voilà. « Vayomer », donc David dit à Avner, « Tov ani echot itra brit ». Très bien, je suis prêt à faire avec toi cette alliance. Et regardez maintenant, on va lire un ou deux versets qui va être le cours, qui vont être le cours d'aujourd'hui. Ah, cependant, je te pose une condition. Davar echad anochi shoel mitra. J'ai une seule condition à poser. Lo tira et panai. Je ne t'autorise pas à me rencontrer. Ki im lifne aviecha et michal bat shaul beboecha lirot et panai. Tu ne pourras pas me voir, tu ne pourras donc pas me rencontrer, tant que tu ne m'auras pas ramené, Michal, mon épouse, la fille de Shaoul. Seulement à ce moment-là, tu pourras voir ma face. On continue encore un verset ou deux. Vaishlach David Malachim el Ish-Boshet ben Shaoul. Bien sûr, Avner a accepté, ce n'est pas dans le texte, mais il a accepté. Et donc, qu'est-ce que fait David? Il envoie des messagers, ses propres messagers, vers Mephibosheth, donc le fils de Shaoul, et il lui dit, « Tnai tishti, rends-moi mon épouse, et Michal, asher erastili, que j'ai épousé, bemea arelot plishtim, avec les 100 prépuces des Philistins. » Je vais rapporter toute l'histoire. Ish-Boshet accepte. Vaishlat Ish-Boshet. Ish-Boshet accepte. Vaikachea, et il la prend. Mein Ish de son mari, parce qu'elle était avec un homme. Et qui est cet homme-là? Paltiel Ben-Lish, Ben-La-Ish. Il s'appelle, on verra que ce n'est pas son vrai nom, il s'appelait autrement. Il s'appelle ici dans le verset Paltiel Ben-La-Ish. Paltiel, le fils de La-Ish. Vayelech ita isha, son mari, c'est-à-dire l'autre, Paltiel, l'accompagna, alors Ubacho, il l'accompagna en pleurant, Acharea, il ne voulait pas la lâcher, Ad Bachurim, il y a différentes traductions possibles, jusqu'à ce que des jeunes soldats s'interposent entre lui et elle et lui disent, lâche-la. Vayomer elav Avner, et Avner lui-même vient et lui dit, Shov, rentre chez toi. Veyachov, il rentra chez lui. Un passage extrêmement mystérieux, parce que de quoi ça parle, pourquoi on en parle ici et à quoi ça fait allusion. Alors un bref rappel. D'abord, comme on le fait dans ce genre de cours historique, technique, et après Bezrat Hashem, on va rentrer dans l'âme de l'histoire, on va décoder et on va essayer de comprendre par rapport à nous aussi. De quoi s'agit-il? On se rappelle que lorsque David n'était encore absolument pas connu, c'est encore un jeune berger, ses frères étaient partis et ils avaient été enrôlés, ses grands frères avaient été enrôlés dans l'armée de Shaoul pour se battre contre les Philistins, et c'est le fameux passage de la lutte contre Goliath. Tout le monde a peur de Goliath, et à ce moment-là arrive David arrive innocemment pour apporter à manger à ses frères qui sont enrôlés. Et voilà qu'il entend Goliath en train de maudire le Dieu d'Israël et les armées d'Israël. Il s'arrangeait, comme on le sait, pour maudire Israël au moment du Kriyat Shema. Et au moment où il faisait le Shema Israël, pour les empêcher justement de se renforcer dans cette confiance, cette prise de conscience de l'unité d'Hachem, il y a tout un sens derrière ce combat entre Goliath et Israël, c'est bien plus qu'un combat militaire. Et donc, à ce moment-là, Shaoul dit que celui qui arrivera, qui aura le courage de se battre contre Goliath, sera récompensé, il deviendra le Khatan, il deviendra le gendre du roi. Et donc, David est là, on se rappelle l'histoire, et David se bat contre Goliath, et David arrive à vaincre Goliath. À ce moment-là, dans un premier temps, Shaoul n'accomplit pas sa promesse, il ne donne pas sa fille à David, mais par contre, il fait rentrer David dans sa propre maison, il le nomme officier, plus que cela, jusqu'à ce qu'il devienne général d'armée. Entre-temps, on ne va pas répéter tout ce que l'on connaît, ça commence à s'envenimer entre lui et son futur gendre, entre lui et son général d'armée. Et donc, Shaoul trouve un stratège pour se débarrasser de David, un stratagème pour se débarrasser de David. Il lui dit, c'est vrai, j'ai promis à celui qui descendrait Goliath ma fille, mais je ne l'ai pas promis au moment même, simplement que maintenant il reste encore une étape. Si tu es capable de me ramener sans prépuce de Philistin, à ce moment-là, je te donnerai véritablement ma fille. David part, et il ramène sans prépuce des Philistins, et dans un sac, excusez-moi, et devant témoin, il les donne à Michal, et il lui dit, « Areat, mekoudeshetli, tu es mon épouse. » Michal, bien sûr, accepte, bien évidemment qu'elle a envie d'être l'épouse de David. Mais les choses ne se passent pas aussi simplement que cela. Pourquoi ? Parce que la tension ne cesse de monter, surtout que Shaoul avait conçu ce plan pour se débarrasser de David, et surtout pour ne pas lui donner sa fille, et pour s'en débarrasser complètement. Et voilà que maintenant, non seulement il est sorti vainqueur de cette situation, de ce combat perdu à l'avance, parce que 1-100, c'était quand même difficile à imaginer qu'il ressortirait vivant de cela, et en plus, il a rapporté les prépuces, il les donne à Michal. Michal les a acceptées. Elle est donc mekoudeshet, elle est mariée. Or, voilà que dans le premier livre de Shmuel, on nous avait rapporté, on nous avait dit la chose suivante. Ve Shaoul, que Shaoul, donc c'est pas dans notre texte, c'est dans le premier livre de Shmuel, à la fin du 25e chapitre. Ve Shaoul Nathan et Michal Bito. Shaoul a donné sa fille Michal, Eshet David, qui était pourtant l'épouse de David. Les Palti Ben Laïch, il l'a donné à Palti Ben Laïch, et partout dans la Bible, il est appelé Palti. Ici, dans notre verset, le cours d'aujourd'hui, c'est le seul endroit où il est nommé Palti El. On rajoute le nom de Dieu à son nom. Et Palti El signifie celui que Dieu a sauvé. On va voir pourquoi. Mais en vérité, son nom était Palti. Et non Paltiel, et la preuve c'est qu'ici, quand Michal lui est donné, il est appelé Palti et non Paltiel. Et donc je continue le verset. Donc Shaoul donne sa fille Michal, Eshet David, dit le verset, épouse de David à Palti, à Cher Migalim, qui était de l'endroit de Galim. Alors, on va d'abord voir techniquement ce qui s'est passé, historiquement, halachiquement. Et après, on va rentrer, encore une fois, dans l'âme du texte qu'on a l'habitude de le faire.
Il a donné avant ou après ?
Après que David ait donné les Kiddushin, ouais. Ça veut dire ait donné les Harelot des Plishtim à Michal, qu'elle a accepté, elle était donc mariée.
C'est pas possible.
Mais c'est ça tout le coup. Après qu'elle soit mariée, c'est pour ça qu'elle est appelée Eshet David. Il a donné l'épouse de David à Palti. C'est ça toute la difficulté. Un tsunami de commentaires ont été dits et écrits sur ces deux versets, sur cette histoire. Un tsunami. Des milliers de commentaires sur ce passage-là. Et donc, encore une fois, techniquement, de quoi s'agit-il ? Et après, halakhiquement, Shaoul prend donc une femme mariée, sa fille, et il la donne à Palti. Donc, évidemment, il y a trois questions fondamentales. Est-ce que vous demandez comme question ? Première question, comment Shaoul, qui évidemment, on le sait, est un homme qui respecte les lois de la Torah, comment est-il possible qu'il enfreint une loi aussi fondamentale, aussi inimaginable que de prendre une femme mariée et la donner à un autre homme, avec toutes les halakhot elle est chayav mita, les enfants sont mamzerim. Je traduis pas, peu importe, vous avez compris. Ouais. C'est le summum de l'impossibilité au niveau halakhique, au niveau de la loi juive. C'est la faute suprême. Et donc, comment est-il possible une chose pareille? Deuxième question, c'est comment trouve-t-il dans le pays un homme qui accepte? D'autant plus que cet homme-là, Dieu lui-même va l'appeler après, la Torah va l'appeler, pardon, Paltiel du nom de Dieu. Donc, deuxième question. Troisième question évidente, comment se fait-il que David demande qu'on la lui redonne, alors que la loi est connue, elle est valable jusqu'à aujourd'hui, une femme mariée qui a trompé son mari ne peut plus jamais revenir à lui.
Mais comment elle accepte aussi.
Et donc, comment elle accepte, comment son deuxième mari a accepté, comment David la redemande. C'est fini, c'est mort, dans ce monde c'est fini. Impossible. Pourquoi la redemande-t-il? Deuxièmement, et dernière question, la quatrième, c'est pourquoi précisément maintenant, écoutez bien cette question car elle a l'air de rien, mais comme on le verra, c'est la plus importante de toutes. Comment se fait-il que c'est la condition que David pose à Avner, où tu me la ramènes, où tu ne verras jamais ma face, c'est-à-dire, donc, je ne deviendrai pas roi sur tout Israël, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Avner est en train de lui amener les 11 tribus d'Israël sur un plateau d'argent, sur un plateau en or, parce que c'est un roi. Et il lui dit, tu veux me voir, tu veux donc qu'on fasse cette alliance, tu me ramènes d'abord Michal. Pourquoi David fait dépendre l'accession à la royauté du retour de Michal, alors que, comme le demande entre autres, parmi des millions d'autres, le Malbim, il pose une question évidente, retourne à Jérusalem, deviens roi sur tout Israël, et automatiquement reprends-la. Qu'est-ce que tu as besoin de la reprendre quand tu es encore à Hébron, alors que dans une heure, dans quelques jours, tu seras de toute façon roi sur tout Israël, et bien évidemment, est-ce que Paltiel va oser la garder? Si tu as trouvé une combine pour la récupérer, qu'est-ce que tu as besoin de faire dépendre ton accès à la royauté de ce retour, alors que tout simplement, tu peux l'accueillir comme une rose, une fois que tu seras à Jérusalem? Donc, quatre questions fondamentales, dont la quatrième, sur le plan, on pourrait dire, de la logique, est la plus compliquée de toutes. Et on va rentrer dans le cours, toujours sur le plan halakhique. Aujourd'hui, le cours sera sans doute un peu plus long que d'habitude, parce que c'est un cours fondamental. Et on ne peut pas le couper en deux, c'est absolument impossible, parce que d'ici la semaine prochaine, on aura tout oublié. Donc je suis obligé de le terminer. Une fois commencé. Sur le plan halakhique, qu'est-ce qui s'est passé? On a, sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas un cours de Gemara, mais un minimum pour qu'on puisse tous comprendre ce qui se passe sur le plan halakhique. Bien évidemment que Shaoul, qu'à Dieu ne plaise, ne va pas prendre une femme mariée, en plus sa fille, pour l'esquinter à vie. Elle et ses enfants mamzerim de génération en génération. Vous imaginez que le roi Shaoul le faire sortir des mamzers de sa lignée? Impossible. Même si ça avait été un homme normal, sans être un roi d'Israël et aussi un élève de Shmuel Hanavi, c'était quand même un grand dans la Torah. Même s'il avait été un simple juif comme vous et moi, quel est l'homme qui veut que sa fille sorte des mamzerim? Des bâtards. Donc c'est clair qu'il avait forcément dans sa tête une position qui lui permettait de justifier son acte. Et effectivement, quelle était en vérité la machloquette, la discussion entre David et lui, ou entre le clan David et le clan Shaoul? Parce que n'oublions pas qu'entre Shaoul et David, ou entre le camp halakhique David et entre le camp halakhique Shaoul, il y a deux visions de la Torah qui sont fondamentalement différentes, et vous allez voir d'une manière extraordinaire comment il y a une logique fondamentale qui suit toutes ces discussions. Je tiens juste à préciser que c'est un petit peu dommage que je fais ce cours, en tout cas directement devant vous. On est tous mariés depuis longtemps parce qu'on va beaucoup parler de ce qu'une femme peut apporter à un homme aujourd'hui. Et en général et aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui. Et disons que c'est peut-être sur beaucoup d'aspects un cours que l'on aurait dû entendre lorsqu'on était encore des jeunes mariés. À nos âges, c'est peut-être trop tard. Je ferme la parenthèse. Mais en tous les cas, non, c'est jamais trop tard. Très bien, merci. Vu la couleur de votre barbe, c'est très beau de dire, c'est pas trop tard. Donc, je vais faire la parenthèse, j'arrête la plaisanterie. En tous les cas, écoutez, il y a donc une machloquette fondamentale, deux visions de la Torah qui opposent depuis le départ Shaoul et David, et précisément au sujet d'une histoire de femme. Mais d'abord, c'était une mère, pas une épouse. La mère qui, Ruth. Shaoul pensait que Ruth ne pouvait pas faire partie d'Israël, et c'était contre l'avis d'une autre tendance, qui avait été à l'époque celle de Boaz, qui avait épousé Ruth, celle de Shmuel, le propre maître de Shaoul, qui ne pensait pas comme Shaoul, et Shaoul savait très bien ce que pensait son propre maître, qui en plus était prophète d'Israël, aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Et donc cette autre tendance, elle pensait que Ruth n'avait aucun problème de devenir une juive à part entière, et même d'être la matrice de la royauté d'Israël et du Mashiach. C'est ce qui effectivement se produit. Mais il y avait une autre école, pas forcément à la tête de laquelle se tenaient des malfaiteurs, de grands, grands maîtres aussi, et parfois aussi des malfaiteurs comme le tristement célèbre Doeg, qui lui influençait ce courant à son époque, et avait persuadé Shaoul de rejoindre ce courant, qui pensait donc que la place de Ruth n'était absolument pas là où elle était, et qu'en aucun cas la Ruth d'Israël ne pouvait sortir de cette femme-là. Donc déjà au départ, il y avait une marloquette, une discussion avec des répercussions terribles quant au statut de la mère de David, la mère dans le sens la matrice fondatrice de David, qui est Ruth. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à nouveau, il va y avoir une discussion terrible de conséquences entre Shaoul et David, entre deux courants halakhiques, en ce qui concerne l'épouse de David, Michal. Comment elle a été mariée, et est-ce que les kiddushim, d'abord je vais le dire en hébreu, est-ce que les kiddushim sont chal, oui ou non? Est-ce que les kiddushim sont acceptables, oui ou non? C'est-à-dire, est-ce que l'acte de mariage est valable? Or, je ne vais pas rentrer dans tous les aspects de la halakha, parce que c'est absolument impossible dans le cadre de ce cours, mais très très brièvement, on sait tous que lorsque l'on marie une femme, on lui donne quelque chose qui a de la valeur à ses yeux, c'est pour ça qu'on lui donne une bague, on lui donne quelque chose qui est précieux, qui témoigne, qui manifeste l'importance qu'elle a à nos yeux, dans le monde entier aujourd'hui, et ça vient en vérité de la loi d'Israël, on offre au moment du mariage quelque chose qui est précieux qu'elle portera toute sa vie, et donc c'est la bague. Mais on fait attention à ce que la bague ait une valeur, parce que ce n'est pas seulement quelque chose de sentimental, il faut que ça ait une valeur, au point qu'il y a de nombreuses discussions dans le Talmud, va savoir si quelqu'un offre à une femme quelque chose qu'elle accepte, mais qui objectivement n'a pas de valeur commerciale, n'a pas de valeur. La femme l'a accepté parce qu'on le lui a donné, mais ça n'a pas une véritable valeur. Est-ce qu'elle est, oui, considérée comme étant mariée ou non? Donc, sans rentrer dans les détails fastidieux de la halakha, ici se pose un problème fondamental. David vient et donne un sac de prépuce de Philistin à la fille d'un roi pour l'épouser. Apparemment, Shaoul et son école, c'est Doeg qui est derrière, le prince du Sanhédrin, Shaoul vient et crie au scandale. Je ne t'ai jamais dit d'épouser ma fille avec un sac de haralot. Je t'ai dit, si tu me ramènes sans prépuce de Philistin, à ce moment-là, je te la donne, ça veut dire que tu iras chercher une bague qui vaut 150 000 euros, parce que c'est quand même la fille d'un roi, ou 200 000 euros, et je te la donnerai, mais je t'ai jamais dit que tu peux l'épouser avec un sac de horlotte. Apparemment, Shaoul a 100% raison, c'est un scandale, c'est une aberration. C'est comme ça que tu acquiers ma fille. Le problème, c'est que Michal a accepté. Bon, mais Michal, son père pensait qu'elle est sotte. Elle est amoureuse tout simplement d'un jeune général beau et fort. On ne va pas lui faire confiance à elle. Mais ce sac, qu'est-ce qu'il vaut? Non seulement ça, mais les commentaires disent que ça a été non seulement une raison de tension entre David et Shaoul, mais en plus ça n'a fait aux yeux de Shaoul que redoubler, que renforcer la haine qu'il avait contre David, de dire, mais vous voyez bien, il se fout de moi celui-là, pour qui il me prend, moi et mes enfants? C'est vrai que si on se met à la place de Shaoul, quel est le père au monde qui accepterait? Vous imaginez que, je ne sais pas, on ramène 100 morceaux d'ongles, on les met dans un sac, on le donne
à sa pute.
Mais c'est impossible. Donc quand Shaoul a vu ça et David n'a rien donné d'autre, Shaoul a dit, ce n'est pas ton épouse, d'accord, et je vais te le montrer, tu oses me faire cet affront, il l'a pris, il l'a donné à Palti. Donc Shaoul n'a absolument pas fauté à ses yeux. Pour lui, Michal, sa fille, n'était pas mariée avec David. Et alors maintenant, le vrai problème, c'est David. Comment David a-t-il pu croire un seul instant que des kiddushim de cette nature allaient, oui, marcher? Apparemment, elle n'est pas Mekoudéchèque, elle n'est pas mariée à David. La chokhma de David. est le fond de la marloquette entre les deux. Je vais rapporter une petite halakha pour que vous compreniez. Ce que je vais dire sur le plan halakhique est très 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 particulier et très nouveau par rapport aux explications qui généralement sont données sur ce passage-là. Et pour le dire dans le langage des hommes de l'étude, c'est un très 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 grand chidouche. J'explique. Il y a une halakha qui dit que pour pouvoir marier une femme, c'est à l'homme de donner quelque chose. Tout le monde comprend. Puisqu'elle devient ton épouse, c'est à toi de donner. Le Talmud se pose une question évidente. Et si une femme donne, elle, quelque chose à un homme, et elle lui dit, en échange que tu l'acceptes, je deviens ton épouse. Est-ce qu'elle est mariée ? Non. Parce que ce n'est pas à elle de donner, c'est à lui. Ça va même tellement loin que nous devons faire très 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 attention pour les hommes qui portent une bague, malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'un homme juif n'a pas apporté une alliance. C'est un minhag des goyim, ça n'a rien à faire chez nous. Chez nous, c'est nous qui donnons la bague et nous ne portons pas de bague. Peu importe, je l'ai dit. Mais il y a malgré tout, comme on le sait, énormément d'hommes juifs qui portent une alliance. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que sous la choupa, la kala donne l'alliance, elle aussi, à son mari. Un échange d'alliance. Alors là, quand on a un vrai rave qui dirige le mariage, on doit faire très très attention que ça ne se produise pas. On dit à aux jeunes époux, la bague de l'homme, vous la donnerez avant ou après, mais pas au moment de la cérémonie, pour ne pas qu'on puisse croire que le fait de donner de la femme à l'homme fait partie du mariage. Ça ne fait absolument pas partie du mariage, et au contraire, ça risque de foutre en l'air tout le mariage. Tellement ça n'a rien à faire ici. Donc, on fait attention à ce que la femme ne donne rien, pour ne pas que l'on puisse croire que le mariage se fait aussi par un don de la femme à l'homme. Donc, on comprend, sans répuser les détails, que ce n'est pas à la femme de donner, c'est à l'homme de recevoir, c'est à l'homme de donner. Maintenant, le Talmud rapporte un cas extrêmement intéressant au niveau de la halakha. Imaginez-vous qu'un homme soit, un homme entre parenthèses très 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 important, qui n'accepte pas, on pourrait dire, des rencontres ou des cadeaux de n'importe qui, et le fait d'accepter de ma main, je parle d'un homme à un homme, le fait d'accepter de ma main un présent est pour moi un honneur inimaginable. Comme par exemple, on est quelqu'un de très important, accepte une audience, accepte de me recevoir, de lui parler, ou il accepte un présent de ma part. Pour moi, c'est un honneur. Comment cet homme tellement important et qui je suis moi, il a accepté quelque chose de moi. On le sait tous, au personnage très très important, on aime bien pouvoir donner, laisser quelque chose parce que c'est une marque de considération. Waouh, l'honneur qu'il me fait, il a accepté un présent de mes mains. Ça va tellement loin que, encore une fois dans l'aspect halakhique, nos maîtres disent qu'un homme véritable n'a pas le droit d'accepter un cadeau stam de quelqu'un. Comme il est dit, sonnez matanot yirye. Celui qui fuit les cadeaux vivra. C'est un verset dans les proverbes. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas à recevoir de cadeaux. Sauf si, bien sûr, je suis de la famille, tu m'aimes, tu sais, tu ça, etc. Ou, disent aussi nos maîtres, si le fait d'accepter le cadeau est en vérité une marque d'honneur, de kavod que je te fais à toi. J'ai accepté de toi quelque chose. Et je sais que ça te fait plaisir que j'accepte de tes mains. Dans ce cas-là, qui donne à qui ? Est-ce celui qui accepte, donne à celui qui donne. Puisque en donnant, finalement, il se fait plaisir. Donc nos maîtres disent qu'il faut toujours une justification quand tu acceptes quelque chose. Pourquoi ? Ça fait partie des fondements même de la pensée juive authentique. Nos maîtres ont horreur de la gratuité. Qu'est-ce que ça veut dire que tu reçois ? Qu'est-ce que ça fait pour recevoir ? Il faut qu'il y ait un échange. La gratuité est dangereuse parce qu'elle déshumanise, elle enlève la dignité à un homme. Donc tu reçois, tu n'as pas justifié pourquoi tu as reçu. Je suis son frère, je suis son époux, je suis son oncle, je suis son père, je suis son fils. Je lui ai rendu un service, il m'aime, il veut me témoigner sa reconnaissance, peu importe. Il faut qu'il y ait quelque chose. L'une des quelque chose qu'il puisse y avoir, c'est que en acceptant ton cadeau, je te fais plaisir et c'est moi qui te donne finalement grâce à ce don. Grâce à cette réception. Et donc, ça s'appelle aussi donner. Ça veut dire que nos maîtres considèrent qu'encore une fois, accepter ce présent de ma modeste personne. Oui, je l'accepte. Qui a donné à qui? Celui qui a reçu le présent. Maintenant, regardez. David, qu'est-ce qu'il a pensé? Et c'est lui qui avait raison sur le plan de la halakha. David, son intention n'était pas que Michal devienne son épouse grâce à ce sac. Mais non. Mais en lui apportant ce sac, qu'est-ce qui lui donnait en vérité? Quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que le sac. Regarde ce que tu es pour moi. Tu es tellement importante à mes yeux que je suis parti seul, j'ai risqué ma vie pour toi. Parce que tu es toute ma vie. Et ma vie n'a pas de sens sans toi. Au point que, pour t'avoir, je suis prêt à sacrifier ma vie. Parce qu'en partant, je pouvais peut-être penser y rester. Mais je ne peux pas concevoir, à partir du moment où je sais que tu peux être mon épouse, je ne peux pas concevoir ma vie sans toi, et si ce n'est pas ta voix, alors je préfère mourir. Maintenant j'ai gagné, tu es mon épouse, tu es ma vie. Et ce sac que je t'apporte est la preuve que tu es ma vie. Ben, quand tu dis ça à une femme, tu es ma vie, tu sais, tous les diamants du monde, c'est insignifiant, devant une vraie femme bien sûr. Qu'est-ce qu'une femme veut? Des diamants? Elle veut des bijoux? Elle veut de l'argent? Ou elle veut qu'on lui témoigne véritablement le fait qu'elle est toute notre vie? Et donc, David n'était bien sûr pas un voyou, un délinquant qui offre un sac d'ongles à une femme. Mais David signifie à Michal, tu es la fille d'un roi, tu vas devenir mon épouse, tu es toute ma vie, sans toi ma vie n'a pas de sens. Tiens, voici la preuve de ce que tu es pour moi. Mais David et Michal se sont parfaitement bien compris. Et donc quand Michal a accepté ce sac, c'était pas avec le sac qu'elle s'est mariée à David. C'est avec l'honneur inimaginable que David a témoigné que tu es toute ma vie. Et donc elle était effectivement mariée véritablement à David. Mais Shaul, lui, ne l'a pas accepté. Vous savez pourquoi? C'est très fort ce que je vais dire. Parce que ici, David et Shaul disent nos maîtres, c'est les deux conceptions que l'homme a de la femme. Pour Shaul, avec toutes les nuances inimaginables qu'il faut apporter à ce que je dis, mais comme j'ai l'habitude de le dire dans ce genre de cours, je le dis de manière très brute, et après tout le monde y mettra le papier emballage qu'il faut absolument mettre à ce que je vais dire d'une manière brutale. Mais Shaul, sa conception de la femme, c'est l'objet. Ça s'achète. Il n'y a pas de relation profonde, réelle. Tu es ma vie, Xavier, tu es ma vie. Depuis quand une femme peut être la vie d'un homme? Tu es ma femme, Nekouda. Ma vie, c'est Dieu, c'est la Torah, c'est mes amis, c'est mon rab, c'est mon rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand la femme peut être la raison de vivre d'un homme? C'est trop occidental, c'est trop romantique comme vision des choses. Lui, c'est un oriental. Shaul, c'est un hébreu. La femme, la femme. Un point, c'est tout. D'où on le sait, mais on l'a déjà vu. Quand sa colère a explosé contre son fils Jonathan, le jour où il a compris que Jonathan était du côté de David, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben Navata Mardout. T'es comme ta mère, un pauvre type. T'es comme ta mère, un pauvre type. Na'avata Mardout. Traduction. Pauvre. Elle, c'est une pauvre type. Et tel fils, telle mère. Telle mère, tel fils. C'est-à-dire qu'on voit, c'est sorti de sa bouche, devant toute sa cour, la haute considération qu'il avait de sa mère. Ah ben évidemment, d'une mère pareille, il pouvait sortir qu'un tordu comme toi. Sauf qu'il y a juste un problème, Shaul, c'est qu'il ne s'est pas fait tout seul avec cette femme-là. Mais évidemment. Ça veut dire quoi, un homme qui, quand il a un problème avec ses enfants, dit évidemment, avec la mère que t'as. C'est la réaction typique du macho qui, pour qui la femme n'est qu'un objet. Et quand ça ne va pas, ben c'est la faute à la mère. C'est clair. Et donc, on comprend maintenant toute la vision que Shaul a du féminin n'est pas du tout noble. Ça a commencé avec Ruth. Pourquoi ne peut-il pas accepter que Ruth puisse devenir la matrice de la royauté? Mais enfin, ça ne va pas une Moabite. Ça faisait du n'importe quoi, une Moabite. Il est incapable de voir la grandeur. Il est incapable de déceler dans la dimension féminine la puissance inimaginable qui s'y cache, parce qu'il est trop mauvais homme pour le voir. David, lui, justement parce qu'il est issu de peut-être la dernière femme de laquelle on s'attendait de pouvoir devenir la matrice du Messie, du Mashiach, David a appris déjà depuis fort longtemps ce qui se cache dans la dimension féminine. Et il a compris que la femme est tout sauf un objet. Et donc, c'est à ce moment-là qu'éclate à nouveau la machloquette entre David et Shaoul. David dit, Shaoul dit, « Comment tu oses prendre une fille de roi avec un sac ?» Il dit, « Mais c'est pas avec un sac !» Je lui ai donné toute ma vie, j'ai fait d'elle, je lui ai montré quelle était ma vie, je lui ai offert ma vie, ce sac c'est ma vie. Shaoul dit, « Non mais t'es malade toi, ça veut dire quoi? Une femme est ta vie? Mais ta vie c'est ton cheval, c'est ton glaive, c'est ton rang, c'est ça ta vie, c'est pas une femme, laisse-la où elle est la femme. » Très simplement, où est la machloquette? On comprend qu'il y a déjà 3000 ans, dans la royauté du roi David, se cache une vision de la femme extrêmement, extrêmement élevée, et c'est pas pour rien, et je vais l'expliquer dans ce cours. David a un chidouche, David a une vision complètement nouvelle de la femme, je ne dis pas qu'avant lui ça n'existait pas, bien sûr que oui, mais elle commence à apparaître chez David. David est le premier personnage biblique au sujet duquel on voit qu'il affirme que la femme est sa vie. Ça s'est encore jamais vu. Oui.
Je crois il y a parashat Briat Adam et Chava. Alors katouf ish v'isha bara oto d'abord. Hein?
Oui.
Alors David il incarne que ish v'isha bara oto.
D'accord.
Il doit être uni. Et de l'autre côté katouf ish v'isha bara otam.
D'accord.
Ils sont séparés. Et Shaul il incarne.
Bravo. Effectivement le makor est comme dit Nathan. Il y a effectivement deux versets qui sont un petit peu contradictoires. Il y a un verset qui dit « Homme et femme, il l'a créé au singulier ». C'est un texte dans le Talmud, ce que vous dites. Et un autre texte qui dit « Homme et femme, ils ont été créés ». Alors, est-ce qu'ils sont un ou ils sont deux? Shaoul et David, c'est ce que dit David. C'est-à-dire, c'est ces deux courants qui traversent l'histoire. Est-ce que l'homme et la femme sont exactement la même chose, donc sans toi, je n'existe plus? Ou bien ce sont deux êtres séparés qui doivent vivre ensemble, parce qu'il faut faire des enfants, il faut bien que quelqu'un tienne la maison, qui va me repasser mon âge, etc. Et puis, etc. Donc ce sont deux visions fondamentales. Shaoul incarne la vision où la femme est à côté de l'homme, et David incarne la vision où la femme et l'homme, c'est la même chose. Et donc, c'est le fond de la machloquette. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Palti? Palti était en vérité un très 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 grand sadique. Palti était un sujet de Shaoul. Quand Shaoul vient avec un psak, comment on dit en français un psak, une décision rabbinique du grand Sanhédrin de Jérusalem, c'est pas Jérusalem à l'époque, mais peu importe, c'est pareil, du grand Sanhédrin de Jérusalem, comme quoi Michal n'est pas l'épouse de David et que je veux toi, Palti, te donner ma femme, quel est le sujet qui va, ma fille, quel est celui qui va refuser? Refusé dans le sens que tout simplement parce qu'il tient à sa peau. Et donc il a été obligé d'accepter. Il devient gendre du roi. À Shaoul, il va dire non. Mais Palti était un véritable juste. Et Palti faisait partie de l'école de David. Et Palti savait et avait compris quelle était l'intention de David dans ses kiddushin. Et Palti savait très bien qu'il n'avait pas marié avec un sac, mais qu'il avait marié avec le don de sa vie qu'il avait offert à Shaoul, à Michal. Et donc Palti savait que Michal était la femme de David et ne pouvait donc pas la toucher. Nos maîtres disent, qu'est-ce qu'il a fait Palti? Il a pris Michal, il lui a dit, écoute Michal, je vais tout t'expliquer. Bah, Michal, il ne comprend rien, elle ne sait pas. Elle fait confiance à son père, elle fait confiance au Sanhédrin. Et il lui dit, écoute, tu es la femme de David, je ne peux pas te toucher. Mais si ton père l'apprend, il va me tuer. Alors écoute, on ne va pas tous tomber sacrifiés pour cette histoire de fou. D'accord? Je te garde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bon, c'est une image, bien sûr. Il a planté une épée au milieu du lit. Et il a dit, si je te touche, que cette épée me transperce. Et pendant des années, il ne l'a pas touché. Nos maîtres disent dans le Talmud que Yosef HaTzadik, par rapport à Palti, c'est comme l'ombre de l'ombre par rapport à la lumière du soleil. C'est pas de moi, j'aurais jamais osé. Ça veut dire que la grandeur de Yosef HaTzadik, elle est insignifiante par rapport à Palti, ce qu'il a fait. Pourquoi? Nos maîtres disent, Yosef, c'était une seule fois, en plus avec une femme véritablement mariée, Et donc il n'avait aucune raison de se laisser faire. Et en plus, il n'était pas dans la même chambre, et en plus, il n'était pas dans le même lit. Paltiche avec une femme sur laquelle des centaines de rabbanim disaient qu'elle n'est pas la femme de David, il avait donc sur quoi s'appuyer, dans la même chambre et dans le même lit. Et il ne l'a pas touché. Hachem lui a dit, Palti, mon nom je vais le mettre dans le tien, et dorénavant tu t'appelleras Paltiel, qui signifie aussi le sauvé de Dieu. Ça veut dire qu'en vérité, il avait une telle connexion avec le maître du monde, qu'il a mérité d'avoir dans son nom le nom d'Hachem. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle David dit, rendez-la moi. Parce que David sait que Palti, elle, ne l'a jamais touchée. Et donc, elle ne lui est pas interdite. Pourquoi elle ne lui est pas interdite? Parce que même si elle a vécu malgré elle dans une autre maison, si on a la certitude qu'elle n'a pas été touchée, c'est une loi qui est vraie jusqu'à aujourd'hui, même si elle a été dans la maison d'un autre homme, mais qu'il y a des preuves, une certitude, et David avait la certitude de son matzpoun, de sa conscience, comme quoi Palti était un homme trop grand pour avoir osé toucher une femme qui n'était pas à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il l'a repris. Donc vous voyez comment toute cette histoire expliquée d'une manière extraordinaire, mais on n'a encore rien dit. On n'a encore rien dit, il y a encore énormément de choses à voir. Mais déjà comment cette histoire prend un sens extraordinaire, puisque derrière ce sipour, on a tout ce que j'ai commencé à expliquer sur les deux visions fondamentales du féminin. Mais ça va aller beaucoup plus loin que ça. La dernière question, j'ai répondu à toutes les questions, il n'en reste plus une, sauf la dernière.
Pourquoi il pleurait, Palti?
Comment?
Pourquoi il pleurait, Palti?
Très bonne question, je ne l'ai pas posé ça. Pourquoi il pleurait? C'est pourquoi? Nos maîtres disent, pourquoi il pleurait? Parce que... Nos maîtres disent, il pleurait de joie d'avoir tenu.
C'est sûr.
Tellement d'années. Et il a tenu. Puisque... On est combien? Ça fait combien de temps que David a été privé de sa femme? Pratiquement 8 ou 9 ans. 7 ans à Hebron, et il est au moins 2 ou 3 ans avant, quand il était poursuivi. Ça fait que sa première femme, il ne l'a en vérité lui-même encore jamais connue. Et donc, 10 ans...
Il avait le statut de marié quand même?
Bien sûr, il avait les Kiddushin. La femme est mariée dès qu'elle a accepté Kiddushin, dès qu'il y a eu Khoupa avec Kiddushin. Elle était Eshetish mariée à 100%. Le fait que ça a été, qu'il a vécu avec elle ou non, ça ne change rien. Elle est mariée, puisque pour nous, le mariage n'est pas vivre ensemble, mais c'est l'acceptation et la cérémonie sous la roupa. Et donc elle était mariée, mais pendant 10 ans, elle était privée d'elle. Et donc, pendant 10 ans, Palti se retrouve avec tous les jours l'épreuve suprême qu'aucun homme ne peut tenir. Puisque nos maîtres disent, même Yosef, c'est un enfant de cœur à côté de Palti. D'accord. Un personnage insignifiant, mais qui a entendu parler de Palti, sur lequel nos maîtres disent que même Yosef ne lui arrive pas à l'ombre de sa chaussure. Et donc, pourquoi il a pleuré? Mais c'est une explosion, vous savez, quand quelqu'un a de grosses tensions, vous imaginez la tension, c'est fini, alors il lâche tout. Ça a été un mélange de larmes, c'est de tristesse, parce que bon, je veux dire, c'était sans doute agréable de vivre en présence d'une tzadika comme elle, dans le sens de compagnie, c'était quand même une grande femme. Et donc, et aussi, surtout, que le fait qu'il est arrivé à tenir, et sans doute qu'il a dû comprendre ce qui lui était réservé, après une épreuve pareille, réussie jusqu'au bout. Donc il a pleuré de joie, il s'est effondré comme quelqu'un qui est un petit peu en choc de tout ce qu'il a contenu, puis paf, ça lâche, et alors là, il explose. Maintenant, il reste une question fondamentale, qui est en fait la plus importante de toutes par rapport à la profondeur du cours. Et pourquoi David demande à Avner de lui ramener Michal maintenant et pas dans 2 jours quand il sera déjà à Jérusalem? C'est-à-dire, pourquoi fait-il dépendre de son ascension définitive à la royauté d'Israël et tout ce qui va suivre? Pourquoi le fait-il dépendre du retour maintenant de Michal? Et si c'est dans 2 jours, qu'est-ce qui va changer? Alors là, mes amis, se cache quelque chose d'extrêmement profond sur la vision, la compréhension profonde, unique au monde. Je pense que nous sommes la seule pensée, la seule religion au monde qui a une telle conception de la femme. C'est vrai que j'ai dit en blaguant qu'à nos âges, c'était peut-être trop tard de le savoir. On ne peut plus faire marche arrière. Et je plaisante, bien sûr. Mais en vérité, tout simplement, parce que vous le savez, je vais d'abord le dire en langage de la Kabbalah, de la Chassidoute, et puis après je vais le décoder et je vais le ramener au ras des pâquerettes. dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, la femme est appelée Malchut. Malchut, c'est-à-dire qu'on sait, il y a 10 attributs divins. Le plus important de tous, celui pour lequel les 9 premiers existent, comme je l'ai expliqué dans un autre cours, c'est celui qu'on appelle le dernier, mais pas dans le sens de péjoratif, dans le sens d'aboutissement, c'est la Malchut, la royauté. Pourquoi et comment nous savons que cet attribut est le plus important de tous, au point que les 9 premiers n'existent que pour arriver au 10e? Ben tout simplement parce que c'est ce qu'on voit dans notre monde aussi, qui sert d'exemple et de modèle pour comprendre des choses profondes. Avant de faire naître l'enfant, il est d'abord 9 mois dans le ventre de la mère, puisque un enfant naît normalement au début du 10e mois, dans la 10e dimension. Ce qui veut dire que 9 mois l'enfant est préparé, 10e mois il sort. Exactement de la même manière, si le modèle est comme ça en bas, c'est parce qu'il est d'abord comme ça en haut. Il y a 9 attributs divins, 9 sphirotes fondamentales, qui sont toutes un passage de préparation, de renforcement vers le vrai projet qui est la naissance dans la 10e dimension qui est la Malchut. Ce qui veut dire que si nos maîtres disent que la femme, que la féminité se situe au niveau de la Malchut, nos maîtres affirment donc que finalement la féminité est d'une certaine manière l'aboutissement de tout le processus humain. C'est-à-dire qu'elle se place très 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 haut. Mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ont-ils choisi nos maîtres, malgré tout, d'appeler cette finalité, la femme, l'épouse, je préfère dire, Malchut? On aurait pu donner à cette 10e dimension un autre nom. Pourquoi Malchut? Là aussi, on touche une notion extraordinaire, et vous allez comprendre encore mieux ce que souvent je vous ai rapporté, que j'ai rapporté aussi hier dans un autre cours. C'est que nos maîtres se posent la question, c'est quoi la définition de la Malchut? C'est quoi? C'est quoi? C'est quand c'est sur un trône avec un sceptre et une couronne sur la tête? C'est quoi? Alors évidemment, nos maîtres ne s'occupent jamais de la forme, mais du fond. Jamais de la forme, mais de l'esprit. Et donc, ils cherchent à comprendre c'est quoi fondamentalement la royauté. Et vous connaissez tous la définition surprenante de nos maîtres. Qu'est-ce que c'est un roi? C'est celui qui, quand il avance, voit devant lui se dresser une montagne, il la défonce pour se frayer un chemin. C'est la définition apportée au Talmud. Meler poret geder, poret derer, poret geder la asotlo derer. Le roi est celui qui défonce les obstacles pour se faire un chemin. Et nos maîtres disent qu'est-ce que ça veut dire s'il a une montagne devant lui, la défonce. On a déjà expliqué 1000 fois quelle est l'intention de cette image. Il y a 2 possibilités devant une montagne qui m'empêche de continuer. Soit rebrousser chemin. Dans ce cas-là, comme j'ai souvent dit, et c'est pas de moi, c'est pas que t'es même pas un roi, t'es même pas un homme. Parce que rebrousser chemin, t'as perdu ta dignité d'homme. L'obstacle est là pour être dépassé. Mais au niveau d'un homme, il y a 2 possibilités. Celui qui est un homme et qui n'a pas de royauté en lui contourne l'obstacle. Celui qui est un roi défonce l'obstacle. Nos maîtres disent, le chidouche du roi, c'est qu'il le défonce, même s'il peut le contourner. Parce que lui, il se fait un honneur, un point d'honneur de défoncer l'obstacle. Meler poret geder. C'est pour ça que d'où vient la royauté d'Israël? Le premier personnage s'appelait comment? Peretz. Peretz. Le premier homme de la lignée. Peretz, le fils de Yehuda. Pourquoi? Parce qu'il est dit sur lui, Ufaratsta. Il a défoncé l'obstacle. Zera aurait dû sortir devant lui. Il a fait tomber l'obstacle. Il est sorti le premier. Et c'est la promesse, bien sûr, très connue que Hachem avait fait à Yaakov. Ufaratsta yama vakedma, etc. Ufaratsta, de toi sortiront des hommes qui sont capables de faire tomber toutes les limites de ce monde. À droite, à gauche, etc. Donc, le meler, c'est ça le test de la royauté. Si tu vois quelqu'un qui, dans la vie, avance, mais en essayant de composer, de diplomatiser, de contourner, etc., c'est un homme, mais c'est pas un roi. Le roi sait que l'obstacle n'est là que pour prouver qu'il est roi. Il le défonce. Poretz geder. Donc, c'est une dimension qui n'est pas évidente et qu'on ne peut pas inventer. Si on n'a pas une nature de roi, c'est très difficile de se l'inventer. Mais au moins qu'on ait une nature d'homme, de ne jamais rebrousser chemin. C'est déjà énorme. Donc ça, c'est le roi, Ufaratsta. Maintenant, c'est extraordinaire. Si nos maîtres nous disent que la Malchut, c'est l'épouse, on comprend donc que quoi? Que nos maîtres veulent nous faire comprendre, et c'est là que je reviens à ce que j'ai dit, que c'est quelque chose que chaque jeune couple devrait savoir, c'est qu'en vérité, elle est malchoute signifie que c'est à l'épouse de dévoiler dans son mari la dimension malchoute. Et que je vais le prouver dans quelques instants. Ça veut dire que toutes les forces qu'un homme a dans ce monde, sa capacité royale de faire sauter les obstacles, cette force-là, il ne la reçoit que d'un seul et unique personnage sur terre, de sa femme ou de personne. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, la femme est appelée malchoute. C'est d'elle ou de personne. Ça veut dire que même si c'est absolument évident, et en tant que chassid, je ne peux pas ne pas le dire, même si c'est absolument évident que la véritable source d'inspiration spirituelle, morale, la véritable force du Nefesh provient bien sûr de la Torah, provient d'Hachem et par l'intermédiaire du Rabbi. Mais si je ne suis pas marié, ça veut dire que si ça, le dernier, on pourrait dire, le dernier sinor, le dernier canal de ces forces, c'est l'épouse. Parce que s'il n'y a que la Torah et l'homme, s'il n'y a que le Rabbi et l'homme et qu'il n'y a pas l'épouse, c'est comme si quelque part dans le tuyau, il y a un bouchon. Au résultat, ça ne passe pas. Ça veut dire que le dernier maillon fondamental de cette réception des forces, c'est l'épouse. D'où l'importance inimaginable de l'épouse quand on a la véritable compréhension des choses.
On dit Bat-Melech Pnima.
Oh, et c'est pour ça qu'elle est appelée Bat-Melech, et c'est pour ça la vraie signification de Bat-Melech Pnima, qu'elle est fille de roi dans l'intériorité. C'est parce que toutes les forces de l'intériorité de l'homme se révèlent grâce à l'épouse. Maintenant, on comprend quelque chose d'absolument incroyable. Une nouvelle explication, nouvelle en sens de complément, à toute l'attitude de David pendant toutes ces années qui ne se presse pas à devenir roi.
Sans sa femme.
Mais parce que sans Michal, je ne peux en aucun cas devenir roi. C'est à pleurer tellement c'est fort. Je ne sais pas d'où des notions comme ça sortent et se dévoilent. Mais vous imaginez ce que ça veut dire ? David est en attente de sa femme. Mais sans elle, je ne peux pas devenir roi. Quoi, David, tu ne peux pas, après tout ce qui s'est déjà manifesté ? David, à la grande surprise, sans doute même de Avner, Avner vient et lui dit, je te donne les 11 tribus d'Israël. Tu as Yoav et Avner, les deux lions d'Israël sur lesquels tu vas chevaucher jusqu'à Jérusalem. Il dit, non, apportez-moi Michal. Il a dit, attends, et nous alors ? Vous avez rien compris. La force dans ce monde, c'est pas vos bras et vos épées, c'est l'épouse. Quand Avner entend ça, vous avez remarqué qu'il a accepté. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas un verset qui dit oui, qui dit, il ne parle pas.
Il est comme ça. Il s'en va.
La première fois qu'il entend que quoi ? Que la royauté repose sur la féminité. Un homme sans femme, même un homme comme David, à qui on apporte deux lions, Yoav et Avner, même lui dit, sans Michal, il n'y a pas de royauté. Maintenant, on comprend pourquoi il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. Je ne peux pas être roi tant que je n'ai pas Michal. Je rentre à Jérusalem avec Michal ou je ne rentre jamais. Ça a été, c'est pour ça que ce passage est mystérieux, parce que je vous ai souvent dit, toujours dit, quand la Torah nous révèle le summum du summum du summum, elle le cache tellement qu'il faut un miracle pour avoir le mérite de le voir. Okay. Ça, c'est un passage qui est un des summums du judaïsme. Le peuple juif est en avance de plusieurs milliards d'années sur le plus libéral des penseurs de ce que je pense. Ils n'ont rien compris. Qui parle de la femme comme ça ? Maintenant, on continue. On comprend maintenant ce que disent nos maîtres. Et vous allez le comprendre comme on n'a encore jamais compris. Nos maîtres, dans un autre texte, et ô combien révélateur, essayent de nous donner une idée, une image parabolique de ce à quoi ressembleront les générations avant la délivrance finale. Maseret Sanhedrin, à la fin de Chelek, et à la fin de Sota aussi, je crois. Ils nous disent, la génération ressemblera, non pas, ils nous disent, Chutzpa Yisgé, le culot explosera partout. Le culot, ça veut dire quoi? C'est qu'on se poussera dans les autobus, on marchera sur les pieds de quelqu'un, on insultera quelqu'un dans la rue. Ça veut dire quoi? Alors, attendez-vous à la définition de nos maîtres. Ça veut dire quoi que Chutzpa Yisgé, les générations en plan délivrance sont des générations où la Chutzpa explosera partout? Nos maîtres disent Chutzpa Yisgé, le monde ressemblera à Malchuta Belotaga, à une royauté sans couronne. Allez vous amuser, ils auraient mieux fait de se taire, parce que c'est toujours comme ça. Les enseignements d'Israël, ça veut dire qu'une fois que tu crois qu'ils disent quelque chose, tu comprends encore moins qu'avant qu'ils parlent. Ça veut dire quoi? Malchuta Belotaga, une royauté sans couronne. On s'imagine un roi avec... Ça veut dire quoi? Dites-moi mes amis, qui est appelé dans toute la Torah la couronne? La femme. Eshet Chayil, Ateret Baala. La femme vertueuse est la couronne de l'homme. C'est elle qui en fait un roi. Tout le cours d'aujourd'hui, bien sûr, dans un seul verset. Eshet Chayil, Ateret Baala. Mais pourquoi est-elle appelée couronne? Parce que la couronne, comme on le sait, est le justificatif du roi. Ça veut dire que la couronne est le symbole de la royauté admise.
C'est le keter.
C'est le keter, la couronne. Voilà. Qu'est-ce que signifie Malchuta Belotaga, une royauté sans couronne? La royauté, on a expliqué, c'est la force, la volonté qui nous permet de réussir. Et vous, maintenant, écoutez bien le décryptage de ce texte-là. À quoi ressembleront les générations avant la délivrance? Un monde d'hommes qui agit, qui réussit, mais qui a complètement oublié, perdu, qui ne sait pas, qui renie, qui refuse l'idée que la véritable force des hommes provient de la femme. Pourquoi? Parce que dans ces générations, il n'y aura que deux types de femmes. Celles qui sont voilées et écrasées, ou celles qui sont complètement dénudées pour vendre des voitures et du dentifrice. Ça veut dire un monde sans femmes. Il n'y a plus de femmes. Soit c'est madame dentifrice, soit c'est madame je te vois pas. Mais dans les deux cas, on ne voit plus la femme. Soit parce qu'on la voit trop, soit parce qu'on ne la voit plus. Il n'y a plus de femme. Ça veut dire effectivement, la femme a complètement disparu de dessus la surface de la terre. Trouvez-moi une femme. Où on ne la voit pas, où on ne voit qu'elle. Mais la femme, on ne la voit plus. Nos maîtres nous transmettent ce secret déjà depuis des millénaires. Malchuta Belotaga. Le jour où la royauté aura perdu sa couronne, le jour où le monde, entre parenthèses, la force, s'imaginera qu'il n'a pas besoin de la dimension féminine, soit il l'écrasera, soit il l'humiliera, à ce moment-là, on peut être sûr qu'on sera dans les dernières générations avant la délivrance. Pourquoi? Parce que quand on aura touché le fond, alors se dévoilera la vérité. Et la vérité, c'est que l'épouse est à Teret Baala et la couronne de son mari. Donc ça veut dire que la féminité est la légitimité de la force masculine. Donc on comprend des choses inimaginables. Maintenant, on comprend pourquoi David est mêlé à toutes ces histoires. Parce que David étant la matrice, la racine de la royauté d'Israël, automatiquement, si ce n'est pas lui qui prend conscience de ce que c'est la dimension féminine, qui va le comprendre? Donc par la lignée messianique, ou grâce à la lignée messianique, se révèle de génération en génération la véritable dimension féminine. Et fondamentalement, le Mashiach dévoile plus que tout autre l'importance de la dimension féminine, comme entre autres le rabbi le répète constamment, que l'un des signes fondamentaux de la délivrance, Nekeva Tesovev Gaver, que la féminité sera au-dessus de la dimension masculine. C'est une phrase qui revient constamment dans les propos du rabbi dès que ça touche des textes qui parlent de la délivrance finale. Nekeva Tesovav Gaver, c'est dit dans le langage biblique, la féminité, Tesovav, sera au-dessus, au point de la contourner complètement, la dimension masculine. Parce que c'est ça l'enjeu de la délivrance finale. Donc tous les conflits qui existent entre Shaoul et David, Shaoul incarne quoi finalement? Malchuta Benotaga, une royauté sans couronne. Puisqu'il est roi, et il dit sur sa femme, c'est une bonne à rien celle-là. Mais si elle est une bonne à rien, comment tu peux être roi? C'est ça Malchuta Benotaga, une royauté sans couronne. Mais c'est elle ta couronne. Hachem lui dit, mais puisque pour toi la femme c'est une bonne à rien, donc tu ne peux plus être roi. Donne ta couronne à celui qui a compris ce que c'est une femme. Et c'est David qui dit à Avner, vous imaginez, Avner, commandant de Sayeret Matkal, il lui dit, écoute, je ne peux pas devenir roi si je n'ai pas mon épouse à mes côtés. Vous imaginez, en plus on est en Orient, en Proche-Orient, il y a 3000 ans. Ça ne fait pas très proche-oriental ce langage-là. Il fallait avoir du cran. Mais vous imaginez ce que David a fait? Mais vous imaginez ce que David dit? Sans elle, je ne vais pas à Jérusalem. Enfin, mais tu m'as moi! Mais ce n'est pas toi ma force, c'est elle. Vous imaginez le cran qu'il faut il y a 3000 ans pour dire au Proche-Orient une chose pareille. Jusqu'à aujourd'hui, qui oserait le dire? Vous imaginez? Mais vous imaginez une chose pareille, c'est de la folie. Oui, mais Rabbi Akiva, c'est vrai, il l'a dit, mais pas dans le domaine de la force et de la puissance. Vous avez 100% raison. Rabbi Akiva l'a dit, mais dans le domaine plutôt de la... plus spirituel, donc, à la rigueur, c'est... Mais là, on parle de roi, on parle de lion, on parle de guerrier. On parle du guerrier suprême, des trois guerriers suprêmes qui sont David, Avner et Yoav, qu'on appelle les trois lions d'Israël. Vous imaginez ce que c'est David? Vous imaginez ce que c'est Avner? On ne peut pas imaginer ce que c'est au niveau même de la force physique. Qu'un homme comme ça fasse l'aveu en public que sans Micha je ne suis rien, il fallait le faire. Et ça c'est, le dévoilement messianique. Maintenant on n'a pas tout à fait fini. Je voudrais juste encore expliquer une chose extrêmement importante. On s'aperçoit, mais je vais juste introduire cette notion sans l'approfondir, mais on reviendra sur cette notion quand on parlera de Bathsheba. Finalement, il y a une discussion très très importante au niveau des maîtres, au niveau des commentaires, à savoir, vous savez, je vous ai souvent expliqué que même dans le contexte biblique, par exemple, on l'apprend de Yaakov, où un homme peut avoir plusieurs femmes en même temps, malgré tout, il n'y en a qu'une qui est véritablement son épouse, qui est appelée Eshet, Isha. Yaakov avait quatre femmes, mais la seule qu'il appelle mon épouse, c'est Rachel, Ishto. David a eu 18 femmes, bien que dans le texte, hier, on en a compté que 5 ou 6, mais on sait qu'il en a eu 18, peu importe. En tout cas, plus que 1, plus que 2, plus que 3. Il y en a une seule qui est appelée Isha, c'est Michal. Ici, comme il dit, donnez-moi, ramène-moi, où on a pris la femme de, on a pris la femme Ishto chez David. D'un autre côté, nos maîtres se posent la question, mais apparemment il y en a eu une autre qui a une importance extrêmement grande, c'est Bathsheba, de laquelle sort toute la lignée du roi David jusqu'au Mashiach. Ils se sont posés une question apparemment très technique, mais vous imaginez ce qui se cache derrière. Et laquelle des deux, Michal ou Bathsheba, est véritablement l'épouse de David? Laquelle des deux? En plus, ils nous font remarquer qu'il y a un drôle de point commun entre ces deux femmes, c'est que les deux, avant d'arriver chez David, étaient dans la maison d'un autre homme. Puisque Bathsheba était mariée avec Uria, Achiti, et elle n'a jamais été vraiment dans la maison de David, puisque dès le départ, elle a été mise dans la maison de... Paltiel. Donc une analogie inimaginable, une drôle d'histoire. Bon, c'est vrai, il y a eu d'autres, Abigail aussi, mais peu importe. Mais là, c'est très très intéressant de voir que finalement, ces deux femmes, on ne sait pas exactement laquelle est véritablement l'épouse. D'un autre côté, ont un passé extrêmement ressemblant que David doit les récupérer d'un autre homme. Et en ce qui concerne Bathsheba, ça va lui causer de sacrés problèmes. Pourquoi c'est comme ça? En vérité, il y a deux niveaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et si on regarde quelque chose d'extraordinaire, on comprend quelque chose de fabuleux. Il y a chez David la malchoute, la naissance de la malchoute et son devenir. Ça veut dire que la naissance de la malchoute, c'est la transformation de David en roi. Et après, est-ce que la royauté va être transmise? Ça passe par deux femmes différentes. Celle qui a fait de David un roi, c'est Michal. Celle qui va permettre à la lignée de David de continuer, c'est Bathsheba. Ça veut dire que Bathsheba va jouer le rôle de femme, Zera, comment on veut dire Zera, lignée, tandis que Michal va jouer le rôle de femme épouse. On pourrait dire la femme mère ou la femme épouse. Le pélé incroyable, mais c'est dans la folie pure, tellement l'histoire au niveau technique contient et révèle ces messages, c'est que nos maîtres disent que Michal n'a jamais donné d'enfant à David. Elle n'a pas eu d'enfant. Ce qui veut dire que Michal incarne véritablement la dimension épouse uniquement, puisqu'elle ne sera pas mère. Alors que Bathsheba, elle, est la mère par excellence, puisque toute la lignée royale n'est sortie que d'elle, alors qu'il avait encore 17 autres femmes. C'est-à-dire qu'elle est la mère, et l'autre est l'épouse.
Mais Jacob, il avait...
Exactement pareil avec Jacob.
Et Yehuda, c'est le fils de
Réa. D'accord. J'ai déjà conseillé de nombreux cours à ces inversions. C'est très compliqué, c'est 100% raison, des dizaines de cours sur ce problème-là. Comment se fait-il que la lignée royale sort précisément de... Mais le schéma est juste des réponses, il y a. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve la même histoire chez Jacob, c'est qu'en principe, la reine ne devait pas avoir d'enfant. Alors que tous les enfants sortaient de Léa.
Yeah.
Mais d'un autre côté, quand Jacob dit « Quelle est ma femme à moi ?» Il dit c'est celle qui justement ne lui donne pas d'enfant. Ça veut dire qu'on voit véritablement que le rôle de Michal, et en ce sens-là, elle est véritablement la Batzoug, c'est que le rôle de Michal est de construire David, d'en faire un roi. Il semblerait que la Torah nous montre que les deux rôles ne peuvent pas être toujours en même temps. Et le makor de ce que je dis se trouve bien sûr, comme toujours en matière de couple, Adam et Chava. On voit qu'au moment où elle est créée, elle s'appelle l'épouse, Isha, qui signifie en hébreu biblique non la femme mais l'épouse. L'épouse qui met Ish Lukachazot. Ish ki yikach Isha, elle s'appelle Isha lorsque tu l'épouses. Donc en hébreu biblique, Isha signifie l'épouse. Et après la faute, il l'appelle Chava parce qu'il lui dit ki yaita em kol chai. Elle devient la mère de toutes les vies. Chava veut dire Chaya, celle qui donne la vie. Donc on voit qu'avant la faute, il l'appelle l'épouse. Après la faute, il l'appelle la mère. C'est incroyable. Apparemment, ça devrait monter. La mère devrait être au-dessus de l'épouse. Non. C'est précisément le contraire qui se passe. Il l'appelle l'épouse avant la faute, il l'appelle la mère après la faute. Comme pour dire que pour un homme, la première des dimensions féminines qui est véritablement fondamentale et importante pour lui, et ça serait donc d'une certaine manière le rôle de l'épouse plus que n'importe quel autre rôle, et peut-être le rôle primordial et le plus fondamental de tout, ce qu'on demande à une femme... Au-dessus de toutes les autres exigences, c'est « As-tu été une épouse ?» Et qu'est-ce que ça signifie ?« As-tu fait de ton mari un roi ?» J'imagine que toutes les femmes répondront et qu'ils fassent d'abord de moi autre chose qu'une servante. Mais c'est vrai. Mais bien sûr, mais c'est tout le cours d'aujourd'hui. Parce que pour pouvoir demander à la femme de faire de son mari un roi, il faut être comme David, être capable de montrer à sa femme que tu es toute ma vie. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un petit peu trop tard pour nous. Je plaisantais bien sûr. Ça veut dire que si un homme montre à sa femme « Tu es toute ma vie » et qu'elle le ressent, parce qu'on ne peut pas mentir à la femme, oui. Impossible. Si la femme sent que tu es véritablement le sens de ma vie, en échange, qu'est-ce que la femme donne à son mari ? Je vais faire de toi un roi. C'est-à-dire, je vais révéler en toi toutes les forces inimaginables qui se cachent en toi. Et ça, c'est la définition véritable du couple, c'est la véritable définition de l'épouse. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Le règne.